Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Nous sommes surveillés, de plus en plus surveillés. Aujourd'hui, plusieurs centaines de caméras sont installées dans les rues et les espaces publics de Montpellier et des communes environnantes, avec l'interconnexion des réseaux de caméras de la ville, de la métropole et de TAM, c'est-à-dire des transports publics. Les pouvoirs publics, les communes et l'État parlent de vidéoprotection, d'autres de vidéosurveillance. On voit la différence. C'est le cas de mes deux invités qui vont présenter leur point de vue de citoyens sur ce phénomène massif qui, à l'évidence, pose de graves questions sur le respect des libertés publiques. Ils ont souhaité se présenter sous pseudonyme. Exceptionnellement, j'ai accepté de prendre en compte leurs besoins de protection de leur activité de militant, tout en m'assurant, vous en jugerez, auditeurs, auditrices, de la qualité et de la fiabilité des informations dont vous bénéficiez. L'actualité nous a conduit à choisir ce sujet. C'est le festival Technopolis, organisé du 21 au 24 novembre avec une vingtaine de rendez-vous, présentations de livres, spectacles, concerts, débats, ateliers et une originale déambulation en musique le dimanche 24 novembre dans les rues de Montpellier. Nous en reparlerons à la fin de l'émission. La parole est à Camille et à César. Merci d'être venu au micro de Divergence. Camille, vous êtes la porte-parole de Technopolis. Ce nom est ambigu puisqu'il s'agit d'un collectif de vigilance et d'action contre les techniques de surveillance utilisées par la police au plan national et au plan local. Qu'est-ce que Technopolis et qui le constitue?
Alors, le collectif Technopolis, c'est au plan national une campagne qui vient de la Quadrature du Net. C'est une interrogation qui date quand même des années fin 2010 et qui s'interroge sur la multiplication des caméras de vidéosurveillance. C'est une campagne collaborative de recherche action citoyenne, donc tout le monde peut s'y intéresser justement pour lutter, pour comprendre à quoi ça sert, c'est quoi les enjeux, et faire un débat public, en fait, sur la question. Donc, au niveau national, y a un site internet interactif avec des outils pour apprendre à connaître qu'est-ce qu'il y a comme dispositif de déployer dans les collectivités, un accompagnement juridique et puis des groupes locaux qui peuvent remplir une carte interactive, par exemple, sur les caméras, qui renseignent petit à petit toutes les informations qu'on peut répertorier sur ces installations et qui questionnent, en fait, le citoyen.
Très bien. Alors, on va y revenir plus longuement. Pour votre part, César, vous êtes membre de l'équipe, de l'équipage, comme vous dites, du BIB, B-I-B. Alors, le BIB, qu'est-ce que c'est? Alors, vous définissez comme un hackerspace. Qu'y a-t-il derrière cette dénomination en anglais, inconnue, je l'imagine, de beaucoup de nos auditeurs et auditrices?
Bonjour. Donc oui, le BIB, c'est un hackerspace, donc c'est un local physique où se retrouver pour déjà mutualiser des outils, donc c'est un atelier partagé.
On va donner l'adresse au passage.
C'est 80 Impasse Flouche, et ça fait partie de la coopérative de la Tendresse. Et du coup, un atelier partagé où mutualiser des outils, partager des connaissances, des compétences. Le mot de hackerspace, du coup, vient du mot hack. Et la façon dont on l'entend, ce n'est pas le sens qui s'est médiatisé de piratage informatique. C'est un sens qui est plus ancien et toujours utilisé, de détournement, d'usage créatif de la technologie. Ça.
Donc, il y a les technologies, comment on apprend à les connaître et à bien s'en servir à des fins d'engagement, on l'imagine. Voilà. Alors, avant de parler de vos activités respectives, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, bossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Un point de vue à titre personnel, comme simple Montpelliéraine ou Montpelliéraine. Alors Camille, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, qu'ils soient connus ou pas ?
Alors je vais avoir du mal à répondre à cette question de cette façon-là. En fait, je suis arrivée à Montpellier en 1991. Voilà, c'était une grande ville, je venais de la campagne, j'ai rencontré beaucoup de choses très chouettes, j'ai beaucoup aimé la place Candolle, j'ai beaucoup aimé les rencontres que j'y ai faites, la vie qu'il y avait. Bon, il y avait déjà Antigone à l'époque, qui était déjà plus dans ce qui se passe actuellement dans les villes. Et très sincèrement, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à vous dire qu'il y a vraiment des endroits que j'aime beaucoup. Pour moi, mon attachement à la ville ici, il est plus l'attachement affectif à des personnes, à des lieux militants, à des lieux de rencontre, comme la Tendresse, comme la Base, comme la Carmagnole, comme Mauvaise Réputation, enfin des endroits où on se pose des questions justement sur le vivre ensemble. Et la ville en elle-même est de plus en plus désagréable pour
oui,
moi.
Voilà. L'évolution qu'a connue la ville, sa croissance, l'urbanisation et l'offre, je dirais, globale de la ville en termes de lieux et d'activités, là, ne vous satisfait pas tout à fait.
C'est-à-dire que pour moi, vous dites qu'est-ce qui se distingue Montpellier d'une autre ville ? Et en fait, la réalité, c'est que plus ça va, et moins il y a de distinction entre les différentes villes parce qu'on uniformise les espaces.
Très bien. Alors, on se comprend. Et vous, César, alors c'est...
J'ai pas grand-chose à rajouter.
Donc, vous avez été lycéen, vous êtes éloigné, vous êtes revenu depuis quelques années. Donc, là aussi, vous avez été le témoin des mutations de la ville.
Peut-être juste rajouter que j'ai passé pas mal d'années à militer aussi avec les squats de Montpellier, qui n'existent plus. Quelque chose qui m'a marqué à Montpellier aussi, c'est le Carnaval des Gueux, qui, pareil, s'est beaucoup transformé. Donc, même si ça revient un tout petit peu ces dernières années. Et voilà. Sinon, je partage
très bien
le constat.
Bon, voilà des réponses divergentes, ce qui n'est pas pour nous déplaire dans cette radio. Alors, venons-en dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, commençons par dresser un état des lieux à Montpellier. Alors, combien y a-t-il de caméras ? Quels sont les lieux ? Comment ce phénomène d'installation, ce dispositif s'est développé ? Et puis, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui du programme d'installation d'autres caméras dans les prochaines années ?
Alors, c'est difficile d'avoir un nombre exact, parce que c'est un domaine où l'opacité est un peu la règle. Dans le cas de Montpellier en particulier, il y a quand même une chose à noter, c'est que la ville, la métropole, donne le nombre de caméras et les emplacements sur le site de l'Open Data de Montpellier.
Ouais. Donc, c'est accessible par les citoyens.
Voilà. Pour les caméras de la métropole, donc, on en a, j'ai noté, 368. Mais du coup, ça représente une petite part de toutes les caméras qui sont installées dans la ville. On a aussi, du coup, celle de la TAM, on ne sait pas exactement combien.
Alors, la TAM, c'est dans les arrêts de bus et de tram, notamment
Les arrêts, puis tout le long des lignes aussi.
Ah, le long des lignes, donc voilà. Parce que voilà, ça fait une espèce de maillage du territoire qui est quand même très dense.
Significatif. Et puis après, il y a de nombreuses caméras privées aussi, ou sur des administrations...
Les banques, j'imagine.
Oui, bien sûr, les banques, etc. Et alors, ces infos, toutes ces caméras, qu'elles soient publiques ou privées, à partir du moment où elles filment l'espace public, elles doivent faire l'objet d'une autorisation par arrêté préfectoral. Donc on peut savoir dans ces arrêtés préfectoraux qui demande des caméras, où est-ce qu'elles sont, etc. Donc on devrait pouvoir connaître le nombre de caméras à travers ça. Mais dans les faits, en fait, ces arrêtés préfectoraux, c'est des PDF publiés sur le site de la préfecture. C'est difficile de collecter et d'agréger ces données. Et
du coup, on voit bien qu'il y a une difficulté pour un citoyen, engagé ou collectivement organisé comme Technopolis, d'accéder à une information d'intérêt public, pour le coup.
Oui. Il y a quand même, du coup, avec la Quadrature, un outil qui est en train d'être fabriqué pour collecter automatiquement ces arrêtés préfectoraux Et les analyser. Donc pour l'instant, il fournit juste des alertes quand il y a des mots-clés qui apparaissent dans des nouveaux arrêtés comme caméra, drone, ce genre de choses.
Donc ça renvoie à ce travail de collecte d'informations que Camille nous a décrit tout à l'heure. Et alors, parlez-nous en quelques mots de CET, parce que bon, le Technopolis s'intéresse aussi à CET, et Divergence est diffusée sur CET, donc ça mérite quelques lumières.
Ben justement, pour compléter ce que vient de dire César, en fait, c'est que on a un renouvellement des caméras de vidéosurveillance qui est fait tous les 5 ans. C'est une demande d'autorisation préfectorale. Et
C'est-à-dire, la ville, la commune formule une demande d'autorisation de renouvellement des caméras existantes et bien entendu de caméras supplémentaires au préfet de l'Hérault.
C'est ça, chaque collectivité en fait, et du coup la demande de renouvellement elle concerne l'Hérault, et 1200 caméras, c'est 1200 caméras sur tout l'Hérault, c'est 800 pour Montpellier à peu près, et pour CET ça représente à peu près 200 caméras aussi.
D'accord. Alors, donc vous l'avez un peu évoqué, mais je crois que ça vaut la peine d'y revenir. Pourquoi Technopolis se mobilise sur la vidéosurveillance ? En gros, quelle est la raison d'être de Technopolis par rapport aux enjeux ? On les devine, mais vous allez nous les dire, que ce système de caméras installe.
Alors, la première chose, c'est ce qui est appelé parfois le social cooling ou le refroidissement social. C'est-à-dire que c'est un effet qui a été étudié nombreuses fois par différentes études. Qui montre que quand on se sait surveiller, on n'agit pas de la même manière, on auto-censure notre comportement. Donc ça, c'est
où on se déplace pour fuir le périmètre que la caméra surveille aussi. Il y a ces phénomènes-là de déplacement, quoi.
Ouais. Y a aussi le fait que, du coup... ces choses-là arrivent relativement progressivement et on se retrouve maintenant avec un déploiement de la vidéosurveillance d'une ampleur qui nous aurait paru difficile à accepter il y a quelques années. Et du coup, on a une normalisation progressive d'une infrastructure de surveillance de plus en plus extensive et qui se met dans tous les recoins de nos villes et même de plus en plus dans les villages.
Qui se banalise. Et qui, en même temps, qui n'est pas très visible. Bon, il faut un peu lever la nez pour voir les caméras.
Voilà. Pas, ouais.
D'accord. Alors, un des points importants, me semble-t-il, c'est donc quelle est l'utilité réelle, pas l'utilité affichée, mesdames et messieurs, les habitants et habitantes, je vous protège, de ce système. Qu'est-ce qu'on sait, je dirais, de l'usage effectif en termes de protection des biens et des personnes que ce système prétend apporter, Camille?
Ben, en fait, si on regarde tout un tas de séries policières, etc., on s'imagine qu'on résout des tas d'affaires avec ça, que toutes les solutions sont dans la technologie et la vidéosurveillance. Et puis en fait, quand on regarde les quelques études qui ont été faites sur la question, bon, y en a une qui date quand même de 2018, qui a été faite principalement sur Montpellier. Il y a 1% à peu près des affaires qui sont résolues et même pas, enfin qui permettent de,
voilà,
qui permettent de
parmi les affaires différentes de délits, bon, des crimes, je ne sais pas, qui sont connus et repérés, qui entraînent une action de la police et probablement ensuite de la justice, la part contributive des caméras ne serait, d'après cette étude, que de 1%.
Quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Et après, on peut se rendre compte aussi que à chaque fois qu'il y a plein d'exemples concrets, qu'il y a des problèmes sur la voie publique, quand on veut demander des données de caméras, avec tous les accidents qu'il y a aujourd'hui, avec toutes ces trottinettes qui circulent et tout, en réalité, il se passe des tas de problématiques dans l'espace public et que les caméras ne servent strictement à rien à ce moment-là parce que les données sont effacées, etc. Donc, en fait, c'est comme si... En fait, on se fie à cette technologie pour voir ce qui se passe dans l'espace public, mais en même temps, il n'y a plus personne dans l'espace public pour gérer la circulation, pour éduquer à comment on vit ensemble.
Et apaiser la cohabitation des habitants ou des visiteurs dans l'espace public. D'accord.
C'est déresponsabilisant, en fait.
Alors, un petit mot, elle a été citée par la Quadrature du Net. Donc c'est une association nationale qui s'est fait connaître comme la grande référence en France par sa solidité, ses capacités dans la défense et la promotion des droits et des libertés sur Internet. Alors, quel appui, quel lien avez-vous avec la Quadrature du Net, César ?
Donc la Quadrature du Net, c'est une association qui travaille depuis très très longtemps, comme vous l'avez dit, sur les droits et les libertés sur Internet. Et elle est à l'origine de la campagne Technopolis, donc il y a 5 ans. À titre personnel, il y a plusieurs de ses membres qui sont dans différents groupes locaux Technopolis, donc en particulier celui de Marseille et celui de Paris-Banlieue. Et après, elle fournit donc des outils techniques, que ce soit le forum, des outils de collecte de données pour les groupes Technopolis. Et elle soutient également l'organisation du festival par un financement de la communication, du soutien sur la communication. Et certains de ses membres, du coup, vont venir participer à animer certains temps du festival.
Alors, il y a un soutien juridique aussi. On voit bien que le travail sur ces questions s'appuie sur la législation existante ou celle qu'on appelle, que vous pouvez appeler de vos voeux. C'est important, ça aussi, pour reprendre mon mot, cette solidité-là dans votre action militante avec l'appui et l'expérience que la Quadrature du Net vous apporte.
Ben oui, bien sûr. Enfin, ils sont très bien connus pour ça sur de nombreux sujets. Voilà. On a la LDH aussi qui apporte une expertise juridique un peu sur les recours.
La Ligue des droits de l'homme. Très bien. Alors, on a vu un peu les grands principes, ce qui vous motive, ce qui vous met en mouvement, mais comment, dans la région de Montpellier, la Technopolis agit, là, Camille, pour nous donner les exemples de vos formes d'action. Donc, on a vu ce travail de collecte d'informations, de veille ou de vigilance. Et comment ça se traduit par un certain nombre d'initiatives ?
En réalité, le gros travail qu'on peut faire, c'est de l'information au public et de la rencontre avec le public pour qu'il y ait des vrais débats publics. Parce que ce qu'on se rend compte partout, c'est qu'en fait, il y a des dispositifs financiers de l'État qui vont vers les collectivités territoriales, qui prennent ces dispositifs et parce que ça fait de l'électorat, parce que tout le monde...
Je vous coupe. Il y a des subventions importantes de l'État au développement des caméras.
Donc, exactement.
Voilà, parce que les villes les mettent au pot, mais là, il y a quand même... c'est décisif pour beaucoup de communes, si la part importante...
C'est 50% du budget d'installation. C'est 50% du budget d'installation, et c'est même 70% si les données collectées par les collectivités territoriales sont redonnées à l'État derrière. Donc c'est très insidieux quand même, parce que c'est là aussi où on se rend compte qu'il y a des ciblages spécifiques quand même sur...
C'est la carotte, la subvention... pour le bâton de la répression. Enfin,
Exactement. Et en fait, l'intérêt de toutes ces réunions publiques, en fait, c'est qu'on se rend compte que quand on fait, comme on a fait à Grabel, par exemple, où on a des communes qui sont plutôt à gauche, qui seraient plutôt contre, au départ, l'installation de la vidéosurveillance, pour satisfaire une certaine part de l'électorat, prend ça. Et quand on débat avec les personnes, les citoyens, tous les arguments pour sont assez vite balayés et il y a beaucoup d'interrogations qui arrivent. Mais en fait, quel est le coût, quel est l'impact écologique, quel impact sur nos libertés, est-ce que les caméras vont permettre vraiment de protéger les personnes quand il se passe quelque chose, et est-ce que tout cet argent qui est investi, ce sont quand même des milliers et des milliers d'euros, tout cet argent qui est investi là, il n'est plus investi dans des fonctionnaires. On vide l'espace public de relations humaines et pour mettre des dispositifs qui sont écocides, qui sont liberticides, qui sont très problématiques. Et en plus, tous ces logiciels qui sont utilisés, je vais finir là-dessus, en fait, les pouvoirs publics, à un moment donné, décident un cadre, mais ils appartiennent à des sociétés et toutes les données... en fait, elles appartiennent aussi aux sociétés qui vendent ces logiciels. Et ces sociétés-là, c'est aussi des sociétés qui fabriquent des outils de contrôle, etc. Mais ce sont aussi des fabricants d'armes. Donc ça pose quand même question.
Alors, autre forme d'action, un recours juridique. Comment Technopolis s'est saisi du droit, j'ai fait allusion. pour pousser les feux, je dirais, de la mise en cause de ces dispositifs de surveillance. Alors, en deux mots, hein, comment...
Oui, voilà. Je vais tâcher d'être rapide. Donc, on a le soutien juridique à la Quadrature du Net, mais à Montpellier, on a aussi quand même des juristes de la LDH dans le collectif. Et donc, on a vu passer le renouvellement des caméras de vidéosurveillance en 2023. C'était assez discret, mais on est tombé dessus. Et donc, du coup, on a engagé un recours gracieux dans un premier temps, qui a été co-signé par un certain nombre d'associations. Alors, je ne vais pas les lister ici, puisqu'on va vous donner le lien. Et donc, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Donc, on a engagé un recours contentieux qui, actuellement, maintenant, est en attente d'une réponse.
Un recours contentieux contre les demandes d'autorisation portées par certaines communes devant le préfet de l'Hérault, qui en suspend, donc, un recours dont vous ne connaissez pas la résultante.
Non.
Mais qui, et alors, c'était un recours qui demandait des informations, qui allait au-delà, quoi, qui vous mettait en capacité éventuelle, je dirais, de contester même l'attribution de ces autorisations.
Mais en fait, ça permet, en fait, après, de travailler point par point, quartier par quartier, en fait, si c'est quelque chose qui est proportionné, en fait, si ces installations sont proportionnées, justifiées. Et c'est sur cette question-là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce travail d'argumentation, il est mené à la fois par des juristes du côté de la LDH, mais du coup, il est aussi amené à travailler avec des citoyens. Donc ça, c'est un travail qu'on a en cours. C'est de travailler les arguments du citoyen lambda, qui n'est pas juriste, pour l'amener vers justement des arguments juridiques.
Comme vous l'avez fait notamment à Grabels et à Saint-Martin-de-Londres il y a quelque temps.
Voilà.
D'accord. Alors, la reconnaissance faciale, bon, chacun en a entendu parler, est une technologie qui permet de reconnaître automatiquement une personne grâce à son visage. Le 16 décembre 2022, par 55 voix pour et 7 abstentions, donc quasiment à l'unanimité, le conseil municipal de Montpellier, je cite le texte de la délibération, a voté l'interdiction du recours au traitement automatisé d'analyse de l'image sur la base des données personnelles ou individuelles, dont la reconnaissance faciale. Et il a également voté le principe de s'appuyer sur une démarche rigoureuse et ouverte pour garantir les principes et les libertés individuelles dans la mise en étude et en œuvre du traitement d'intelligence artificielle. Quelle est la position de Technopolis sur cette décision, César ?
Évidemment, cette résolution du Conseil municipal de Montpellier va plutôt dans notre sens. Et c'est bien qu'il parle de la VSA en général et pas simplement de la reconnaissance faciale.
Oui, parce qu'il y a d'autres technologies, on va pas rentrer dans l'état, d'autres technologies.
Voilà. Et surtout, en fait, la reconnaissance faciale n'est à l'heure actuelle pas légale. Oui. La VSA a été autorisée avec la loi JO.
Oui, on va en parler. La vidéosurveillance algorithmique.
Voilà. Mais on sait quand même qu'il y a de nombreuses villes qui utilisent... Il y a une enquête de Disclose qui montre que plusieurs villes utilisent Briefcam, un logiciel israélien de reconnaissance faciale. Donc c'est quand même quelque chose qui est mis en place. Et après, la reconnaissance faciale, du coup, c'est l'usage un peu qui fait beaucoup parler, qui fait peur, parce que le visage, c'est quelque chose de très intime. Mais voilà, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres techniques d'analyse automatique de données, que ce soit de données de surveillance, que ce soit biométrique ou non. Donc on a la reconnaissance faciale, mais on a aussi la reconnaissance de démarche, de vêtements, d'émotions, de comportements suspects qui est mis en place par la VSA actuelle.
Je crois qu'il faut s'arrêter un instant là-dessus. Ça veut dire que la manière de détecter ce qui pourrait être éventuellement un comportement délictueux, voire criminel, la palette, je dirais, de surveillance, pour le coup, de détection, s'est élargie. Et donc, ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'outils créés plus ou moins récemment, mais qui sont en usage peu à peu, en France et dans le monde. On connaît bien sûr l'exemple de la Chine, qu'on doit avoir en tête pour bien comprendre que, comme je l'ai indiqué au début, nous sommes surveillés et nous sommes de plus en plus surveillés.
Voilà. Oui, il y a... La liste des outils qui ont été développés est très 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 longue. La liste des outils autorisés est pour l'instant assez courte. Donc la loi JO prévoit, je crois, 8 comportements suspects qui ont été dont on a autorisé la détection. Après, du coup, il y a plusieurs enquêtes qui montrent que Il y a eu des usages illégaux des tas de technologies comme ça dans plein d'endroits depuis plusieurs années.
Alors, vous l'avez évoqué, dans un certain nombre de ces systèmes qui ont été mis en place à titre expérimental et provisoire lors des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, sauf que le Premier ministre Michel Barnier, le 1er octobre, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire son programme, a annoncé, comme on pouvait le craindre, la généralisation de la méthode expérimentée. Donc, c'est une problématique sur laquelle vous êtes, j'imagine, mobilisé, sans qu'on sache, me semble-t-il, à ce jour, comment cette généralisation va être, légalisée et, deux, mise en œuvre. Camille, et puis César complétera s'il le souhaite.
Oui, ben, du coup, c'est précisément aussi quelque chose dont on va parler pendant le festival. Félix Tréguer vient de sortir un livre sur la vidéosurveillance algorithmique à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc c'est effectivement le problème, c'est que ça va dépasser en fait le cadre des collectivités. Si c'est l'État qui décide de généraliser cette surveillance et qu'on peut faire le choix des algorithmes, on peut très bien cibler des militants, des personnes gênantes dans l'espace public et on arrive à ne vivre ensemble que par consommer, rentrer chez soi.
Un truc qu'il faut préciser peut-être sur l'expérimentation de la VSA qui a été autorisée par la loi JO, c'est que...
Oui, il y a eu un vote quand même du Parlement qui a autorisé ce système pour les Jeux Olympiques. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas le seul gouvernement qui a mis en place ce dispositif et qui va proposer aux mêmes élus de la République de l'étendre, de le généraliser.
Voilà, donc ils ont annoncé ça comme une expérimentation, mais en fait l'enjeu réel n'est pas tant de tester l'efficacité du truc, mais... de produire aussi des données d'entraînement pour ces algorithmes sur des cas réels. Donc, ils ont utilisé les JO pour
d'acquérir de l'expérience, de la compétence pour utiliser au mieux les outils. C'est ça. Hein. D'accord, très bien. Alors, un petit mot, ça sera rapide, sur les drones. Alors, l'utilisation des drones par la police, là aussi, il y a un certain nombre de problématiques d'usage et de cadrage légal sur cette question. Il y a bien sûr une menace là aussi d'atteinte aux libertés. Alors le maire de Montpellier, Michael Delafosse, dans un courrier de février 2023 adressé à la Ligue des droits de l'homme, un courrier qui disait notamment cette technologie n'est pas utilisée à ce jour par la police municipale. Et il a ajouté, nous réservons toutefois la possibilité d'utiliser des drones par la sécurité civile dans les cas de gestion de crise, notamment lors d'inondations et de gestion de crues. Alors, même question que précédemment, quelle est la position de Technopolis sur ce sujet? La Camille, vous nous en dites un bref mot, puis on parlera du festival.
Ben, en fait, pour aller faire du secours en haute montagne ou pour des questions d'inondation et tout, pourquoi pas. Mais après, au-delà de ça, les drones, ils ont été utilisés systématiquement, ben, par exemple pendant le confinement, hein, à Montpellier et ailleurs, dans les quartiers populaires, sur les manifestations, sur des plages, voilà, pour voir si les gens suivaient bien le protocole. Voilà, mais donc c'est vraiment un problème de liberté publique. Voilà, le drone n'a aucun intérêt.
Donc, autre objet de vigilance de Technopolis, et on peut l'espérer, des citoyens. Alors, parlons donc de ce prochain festival organisé du 21 au 23 novembre. C'est le troisième. Alors, les deux précédents, hein, Camille, où ont-ils eu lieu, les éditions antérieures?
Alors, il y a eu deux éditions à Marseille. Sur un événement national. Bon, il y a eu quelques événements aussi quand même sur Paris, mais le troisième festival, c'était deux festivals à Marseille les deux dernières années, et cette année, on prend le relais.
Très bien. Alors, quels sont les objectifs de ce festival?
Alors, on s'est donné comme objectif premier de faire en sorte de diversifier beaucoup les formes d'accès à la connaissance de ces dispositifs et à ces questionnements, en mettant en place beaucoup d'outils, soit ludiques, soit avec des outils d'éducation populaire. Donc, il y a des conférences, mais avec des formes de participatives et qui impliquent. Mais il y a aussi des jeux de pistes. Il y a aussi une déambulation qui, justement, met en avant des comportements qui pourraient devenir suspects dans l'espace public.
On va revenir parce que ça, c'est sympa et original. Donc, des formes très diverses et des lieux. J'en ai identifié 6 à Montpellier et 1 à 7, une librairie, bon, qui montre un peu, je veux dire, la diversité de l'offre. donc pendant ces 3 jours. Alors oui, cette déambulation là du dimanche 24, racontez-nous comment ça se présente. On peut voir des images là-dessus parce que c'est pas le cortège habituel, les gens sagement rangés derrière la banderole qui marchent dans la rue, c'est un peu plus fun.
On s'est inspiré d'un sketch des Monty Python, voilà, où on s'envoie quelqu'un sortir d'un ministère avec une démarche complètement désarticulée. Et en fait, on est parti de ça en disant, mais oui, avec de la musique, du son et une silly walk, en fait, c'est ça l'idée. Et du coup, aussi rajouter à ça une costumation, des maquillages qui permettent peut-être
Une forme carnaval.
Une forme un peu carnavalesque, voilà.
L'idée, c'est de mettre en panique les algorithmes de détection de comportement suspect.
Ah oui, parce que c'est un comportement habituel qui peut attirer l'attention. Je marche à l'envers, je marche de traviole, etc. Voilà. Quoi, hein, où je fais des gestes chaotiques, hein, toute forme d'expression publique dans l'espace public, à même d'attirer l'attention. Très bien. Alors, où les auditrices et auditeurs peuvent-ils trouver les informations? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas donner le détail. Là, une vingtaine de rendez-vous dans 7 lieux. Donc il faut donner un site internet, j'imagine.
Technopolis.fr, vous trouverez toutes les informations sur
Technopolis
le festival.
Tout court,
Technopolis tout court, ça permet d'accéder.
Donc j'invite les auditeurs à le faire pour dénicher ce qui peut les intéresser. En plus, ça permet de découvrir des lieux qui ne sont pas toujours connus, hein, je dirais, la base, la tendresse, etc. Donc on arrive au terme de cette émission, donc on va avoir le temps de traiter la dernière question que je pose souvent. Quelle est l'idée reçue, l'idée fausse, sur la surveillance par des caméras que vous constatez et qu'il faut démonter? César, puis Camille. César.
Donc c'est l'idée que si on n'a rien à se reprocher, on a rien à craindre.
Je suis honnête citoyen, je suis honnête.
J'ai rien à cacher. Donc il faut comprendre que ce n'est pas simplement un enjeu individuel, que c'est une question de société et qu'on est engagé sur une pente de mise en place d'un dispositif de surveillance globale de plus en plus d'une ampleur sans précédent, quoi. Et cet outil-là, dans les mains de gouvernements de plus en plus à l'extrême droite, de plus en plus fascisants. Et pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemble déjà ailleurs, des usages qui sont faits de ces outils-là, en Chine, donc, les outils de VSA, ils font du profilage ethnique pour, dans le cadre de la répression des Ouïghours à l'ouest du pays. Ou récemment, en Iran, on a des algorithmes qui détectent le port du voile dans la rue, par exemple.
Donc, ou l'absence de port du voile, pour le coup.
Oui, l'absence de port du voile, ouais. Et on imagine ce que
donc, y a cette idée, quoi,
le même algorithme dans l'autre
vigilant,
sens pourrait donner ici.
Il faut
ici,
être méfiant, c'est un peu... En tout cas, être très attentif à ces questions. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Camille, merci César, et bon vent et bon succès donc au prochain festival du 24 au 30 novembre. Merci, au revoir.
Si je résume votre histoire, Georges n'a eu qu'à vous faire un mea culpa. Dites,
vous êtes drôlement gentil. Vous...
Arrêtez de dire ça. Je ne suis pas gentil, c'est pas vrai. Quand je m'énerve, je me mets dans des états dingues. Je suis méconnaissable.
Ok, excusez-moi, je peux vous poser une dernière question?
Absolument.
Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde?
Je pense à m'égayer au festival Technopolis du 21 au 24 novembre. À la base, à la Carmagnole, à la tendresse et au quartier généreux. Contre la surveillance de nos villes et de nos vies.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.